Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous nouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons aujourd'hui étudier la question 72 de la tertiaire part, sa troisième partie de la somme, donc sur le sacrement de confirmation. C'est une question en 12 articles assez simple, donc il n'y a pas de problème particulier pour cette question. Donc je vais le faire en un cours et vraisemblablement même peut-être commencer le traité suivant, on va voir. Donc Saint Thomas va suivre la tradition de l'Église évidemment concernant le sacrement de confirmation. C'est un sacrement qu'il faut bien connaître parce que c'est le sacrement qui fait de nous des soldats du Christ. C'est un sacrement qui donne un caractère, donc on ne peut recevoir qu'une seule fois. C'est un sacrement qui a été en plus complètement dénaturé dans l'Église de Vatican II. Ils ont changé la forme, ils ont changé la matière. Donc le sacrement de confirmation reçu dans l'Église de Vatican II, je crois depuis 1971, est vraisemblablement invalide. Donc tous ceux qui ont été reçus, qui ont reçu le sacrement de confirmation avec un nouveau rite en 71, même si la personne en question qui a donné la confirmation était véritablement évêque dans certains cas, il faudrait absolument que ces personnes reçoivent la confirmation de nouveau avec de façon conditionnelle d'un évêque, véritablement évêque bien sûr, mais qui donne la confirmation avec le rituel traditionnel. Donc c'est le sacrement des soldats. Et Dieu sait si nous sommes des soldats et Dieu sait si nous sommes en guerre. Donc une double raison pour laquelle nous avons besoin de ce sacrement. Alors nous allons suivre donc l'intégralité des articles de cette question 72. Saint Thomas commence à l'article 1 par la question savoir si la confirmation est un sacrement. C'est que certaines personnes prétendent que ce sacrement n'a pas été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà ce que dit Saint Thomas. Il dit, l'homme reçoit la vie spirituelle par le baptême, qui est une génération spirituelle, et dans la confirmation, il reçoit pour ainsi dire l'âge adulte dans la vie spirituelle. C'est donc la confirmation du sacrement de baptême. Le sacrement de baptême pour les bébés, dans toute la mesure du possible, et le sacrement de confirmation est le sacrement qui va correspondre, si vous voulez, au baptême, mais pour l'adulte déjà baptisé. Si le sacrement de baptême efface le péché originel en donnant la vertu de charité et donne déjà les sept dons du Saint-Esprit, le sacrement de confirmation va confirmer ce qui est déjà reçu au baptême. Voilà pourquoi on l'appelle confirmation. Dans le baptême, nous naissons à la vie, mais après le baptême, nous sommes affermis. Il est donc visible que la confirmation est un sacrement spécial. Donc, la tradition de l'Église est là, et saint Thomas d'Aquin la suit. Le sacrement de confirmation est un sacrement qui a véritablement été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Il cite le pape Melchiade. Quant au point sur lequel vous désirez être instruit par nous, à savoir quel est le plus grand sacrement, l'imposition des mains par l'évêque ou le baptême, sachez que l'un et l'autre sont de grands sacrements. Et donc tous ces sacrements sont absolument importants, bien que la confirmation en tant que telle ne soit pas nécessaire au salut. Cependant, Toute personne baptisée, adulte, qui puisse recevoir le sacrement de confirmation doit le faire, doit le recevoir. L'Église s'oppose dans sa tradition à certaines coutumes qui existent dans certains pays de donner la confirmation au bébé. C'était le cas, entre autres, dans certains pays d'Amérique latine. Quand j'étais au Mexique, dans le sud du Mexique, Monseigneur Lefebvre a eu plusieurs fois des difficultés avec des fidèles qui lui présentaient à confirmer des bébés. Monseigneur Lefebvre refusait de les confirmer parce que justement la confirmation n'est pas un sacrement pour les bébés, mais un sacrement pour les adultes ou ceux qui sont déjà considérés comme adultes dans la foi. En général, on reçoit un sacrement de confirmation quand c'est possible à partir de 10 ans, 10, 12 ans. Il n'y a pas d'âge limite, si vous voulez, dans ce sens-là, précisé par l'Église. Mais c'est un sacrement des vivants, donc il doit être reçu par quelqu'un qui est en état de grâce. Et donc, le sacrement de confirmation doit être précédé, même chez l'enfant de 10 ans, par le sacrement de pénitence, pour être sûr que l'enfant ou le jeune adulte est en état de grâce pour le recevoir. Alors, saint Thomas va expliquer... l'histoire de l'institution de ce sacrement. Donc voilà ce qu'il dit, il va exprimer les différentes opinions. Il y a trois opinions, dit-il, sur l'institution de ce sacrement. Certains ont soutenu que ce sacrement n'a été institué ni par le Christ, ni par les apôtres, mais plus tard, au cours des temps, par un concile. D'autres, au contraire, disent qu'il a été institué par les apôtres. Mais cela ne peut être, car instituer un nouveau sacrement relève du pouvoir d'excellence qui n'appartient qu'au Christ. Donc un pape, un concile, même écuménique, même protégé par l'infaillibilité pontificale, n'a aucune autorité pour instituer un nouveau sacrement. Donc, solution donnée par saint Thomas d'Aquin, aussi faut-il dire que c'est le Christ qui a institué ce sacrement, non en le conférant, mais en le promettant. Comme il le dit en Saint Jean, chapitre 16, « Si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourquoi ? Parce que ce sacrement, nous dit-il, nous donne la plénitude du Saint-Esprit qui ne devait pas être donné avant la résurrection et l'ascension du Christ. Encore une fois, Saint Jean est cité, chapitre 7, « L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc c'est clair et net que ce sacrement vient du Christ lui-même. Même s'il n'a pas donné tout à fait au début tous les détails de ce sacrement, le sacrement dans son essence a été quand même institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ensuite il précise que ceux qui reçoivent la confirmation, sacrement de la plénitude de la grâce, sont conformés au Christ en ce que lui-même, dès le premier instant de sa conception, fut plein de grâce et de vérité. Donc c'est... Je pense que cette phrase est importante dans saint Thomas. La confirmation complète le baptême et représente la plénitude de la grâce du baptême. Deuxième article, la question 72, article 2, la matière du sacrement de confirmation. Il va citer saint Grégoire le Grand que les prêtres ne se permettent pas de signer avec le Saint-Crème le front des enfants qui viennent d'être baptisés. Donc, encore une fois, l'Église est opposée à la confirmation des tout-petits. Mais ce texte insiste sur le fait que le Saint-Crème est bien la matière du sacrement de confirmation. Donc, le crème est la matière de ce sacrement. Donc, le crème, c'est l'union de l'huile d'olive avec un parfum qui s'appelle le baume, un mélange de parfums qui s'appelle le baume. Et ce crème est non pas béni, mais consacré par l'évêque pendant la messe chrismale du jeudi saint, au matin. Donc la messe, le jeudi saint, pendant la fin de la semaine sainte, pendant la semaine sainte, donc il y a deux messes. Une messe le matin, qui est célébrée toujours par l'évêque, donc où il va y avoir la bénédiction de l'huile des catéchumènes, et l'huile des infirmes, et la consécration du Saint-Crème. Ensuite, il y aura une deuxième messe, le soir, qui, elle, est la messe de l'institution de la Sainte Eucharistie. Donc, voilà ce qu'explique saint Thomas. Je donne le texte qui est très beau. Le crème est la matière qui convient à ce sacrement, car ce sacrement donne la plénitude du Saint-Esprit par la force spirituelle qui convient à l'âge adulte. Mais arrivé à l'âge adulte, l'homme commence à entrer par son activité en communication avec les autres. Jusqu'à là, il vivait isolément pour lui seul. Or, la grâce du Saint-Esprit est signifiée par l'huile. On dit du Christ qu'il a été oint d'une huile d'allégresse, le psaume 45, à cause du Saint-Esprit dont il a été rempli. Ainsi, l'huile consacrée est la matière de ce sacrement. On y mêle du baume à cause de la force pénétrante de son parfum qui se répand sur les autres. Ainsi, l'apôtre Saint Paul dit-il, 2 Corinthiens chapitre 2, nous sommes la bonne odeur du Christ. Et bien qu'il y ait beaucoup d'autres matières odoriférantes, on a choisi celle-ci à cause de l'excellence de son parfum et parce qu'elle communique l'incorruptibilité. Donc c'est le baume est le symbole de l'incorruptibilité. L'huile d'olive, elle est le symbole de la grâce du Christ. N'oublions pas que le Christ a subi son agonie au jardin des oliviers, justement parce qu'il y avait un pressoir à huile, et que ce pressoir à huile symbolise la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est écrasé en quelque sorte par les péchés des hommes, et de cette passion va sortir l'huile du salut des hommes. Lorsqu'on a les trois saintes huiles devant nous, on peut reconnaître immédiatement le Saint-Crème, justement à l'odeur très pénétrante de ce Saint-Crème, l'odeur du baume. Les deux autres huiles, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades, n'ont pas d'odeur particulière sauf l'odeur de l'huile d'olive. Il n'y a pas de baume dedans. Alors on utilise le Saint-Crème pas simplement pour le sacrement de confirmation, on utilise également le Saint-Crème pour toutes les consécrations. Consécration des églises, consécration des évêques, consécration de l'enfant à Dieu après la fin de son baptême, consécration aussi de toutes les choses qui sont consacrées à Dieu, comme par exemple les calices, les patènes, les cloches également sont consacrées avec le Saint-Crème. L'huile des catéchumènes est utilisée au contraire pour bénir consacrer même on peut dire les mains du prêtre le jour de son ordination sacerdotale. Donc l'évêque est consacré avec le Saint-Crème, le prêtre est béni avec l'huile des catéchumènes. On utilise également l'huile des catéchumènes pour faire l'eau baptismale. L'eau baptismale étant un mélange d'eau avec l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Donc saint Thomas, un peu plus loin, donne un autre symbole. Les propriétés de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit se trouvent dans l'huile d'olive plus que dans n'importe quelle huile. Et l'olivier lui-même, au feuillage toujours vert, symbolise la force et la miséricorde du Saint-Esprit. Donc de même que l'olivier ne perd pas ses feuilles, de la même façon, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur repentant est toujours disponible, dans la mesure où ce pécheur la cherche, évidemment. Article 3. Est-il nécessaire au sacrement que le crème ait été consacré par l'évêque? Bon, voilà ce que dit saint Thomas. Il cite le pape Innocent, que quand les prêtres baptisent, qu'on leur permette d'oint de les baptiser avec le crème consacré par l'évêque. Il est donc requis pour ce sacrement que la matière ait été auparavant consacrée par l'évêque. Donc le prêtre ne peut pas consacrer les saintes huiles, seul l'évêque a ce pouvoir. Donc le crème, je vous l'ai déjà dit, le crème, saint Thomas le précise, à la fin de le corps de son article, Le crème et l'huile des malades doivent être bénis avant de servir au sacrement. L'huile des malades est bénite, le crème est consacré. Donc cette matière corporelle est capable de recevoir la grâce non pas comme sujet mais comme instrument. Et c'est pour cela que la matière du sacrement est consacrée, soit par le Christ lui-même, soit par l'évêque qui tient dans l'Église la place du Christ. C'est pour cela que le sacrement de confirmation étant une consécration, confirmation, consécration, c'est un petit peu la même racine. De ce côté-là, le sacrement ne peut être donné qu'à quelqu'un qui est capable de recevoir ce sacrement. Donc seul un baptisé en état de grâce peut recevoir le sacrement de confirmation, et comme le sacrement de confirmation fait de celui qui le reçoit un soldat du Christ, donc on ne prend pas des enfants, des bébés comme soldats du Christ, on ne prend que des adultes, et donc il faut avoir au moins l'âge de raison, c'est le minimum, pour pouvoir recevoir le sacrement de confirmation. Cependant, dans les cas où la coutume a été établie contre l'esprit de l'Église, il faut préciser de recevoir la confirmation comme bébé, la confirmation serait valide. Article 4 de la question 72, la forme du sacrement de confirmation. Donc, comme vous le savez, il faut trois conditions pour qu'un sacrement soit valide. Il faut la matière, la forme et le ministre avec intention de faire ce que veut faire l'Église. Donc la matière, c'est l'huile du Saint-Crème, on l'a déjà vu. Le ministre, c'est l'évêque, et avec l'autorisation du pape, dans certains cas exceptionnels, le prêtre, avec autorisation du Saint-Siège. La forme, c'est donc la formule prononcée par l'évêque au moment où il donne le sacrement de confirmation, la voici. Je te marque du signe de la croix et je te confirme avec le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la Nouvelle Église de Vatican II, en général, tout ça, ça a été supprimé complètement. De même que la forme a été changée. Je pense que la plupart du cas, maintenant, ils disent « reçois le Saint-Esprit ». Même la matière a également été changée puisqu'ils utilisent maintenant n'importe quelle huile. Donc, cette forme convient évidemment au sacrement. Donc, et trois choses sont donc nécessaires dans ce sacrement, elles sont contenues dans la forme en question. D'abord, la cause qui confère cette plénitude de force spirituelle, c'est la Trinité Sainte, et c'est ce qu'exprime le début de, je veux dire, la fin de la formule. Je te confirme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, cette force spirituelle elle-même est communiquée à l'homme par son salut, pour son salut, par le sacrement de matière visible. Elle est indiquée par ces mots, je vous confirme avec le crème du salut. Enfin, le signe donné aux combattants, comme dans les combats corporels, les soldats sont marqués les insignes de leur chef, et c'est pourquoi on dit, je vous marque du signe de la croix. Cette croix par laquelle notre roi a triomphé. Donc il y a les trois choses, il y a trois éléments, si vous voulez, dans la forme, le signe de la croix, la manifestation du sacrement lui-même par la confirmation avec le crème du salut, le tout fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la Sainte Trinité. Et comme le baptême est conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Article 5 de cette question 72. La confirmation imprime-t-elle un caractère ? Bon, la réponse est positive. Vous savez qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère dans l'Église catholique, le sacrement de baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement des saints ordres, de l'ordre. Le sacrement de baptême confère le caractère d'enfant de Dieu, le sacrement de confirmation de soldat de Dieu et le sacrement de l'ordre de ministre de Dieu. Alors voilà ce que va dire Saint Thomas. La confirmation imprime un caractère et donne comme preuve le fait que ce sacrement ne peut être réitéré. Il cite Saint Grégoire, quant à celui qui a été confirmé de nouveau par le pontife, cette réitération est interdite, sauf dans le cas où il y a un doute sérieux sur la validité de la première confirmation. J'ai déjà expliqué. Parce que un sacrement qui n'est pas réitéré imprime toujours un caractère. C'est pour ça qu'on ne peut recevoir la confirmation, le baptême et l'ordre qu'une seule fois. Donc ce caractère, dit Saint Thomas, est une puissance spirituelle ordonnée à certains actes sacrés. On peut dire que c'est comme une porte qui s'ouvre pour nous permettre de recevoir d'autres sacrements. Le baptême ouvre la porte à tous les sacrements. L'ordre pour le prêtre nouvellement ordonné ouvre la porte à un certain nombre de pouvoirs dans l'Église, et la confirmation ouvre la porte justement à d'autres pouvoirs pour pouvoir utiliser les armes du salut, âme offensive et défensive, qui sont mises à sa disposition par la Sainte Église. Et voilà ce que dit Saint Thomas. Si le baptême est comme une naissance spirituelle à la vie chrétienne, la confirmation, la croissance spirituelle qui amène l'homme à l'âge adulte dans la vie spirituelle. C'est donc une confirmation du sacrement de baptême. Le sacrement de baptême, si vous voulez, a été donné à un enfant qui n'a pas donné son consentement, parce que c'était un bébé en général, mais la confirmation donnée à un adulte ou à quelqu'un qui a au moins l'âge de raison exige le consentement donné par la personne qui reçoit le sacrement. Saint Thomas explique, il est visible par l'analogie de la vie corporelle que l'activité de l'homme à sa naissance et celle qui lui convient quand il est parvenu à l'âge adulte sont différentes. Le sacrement donc donne à l'homme le pouvoir d'accomplir certaines actions sacrées autres que celles dont le baptême lui donne le pouvoir. Dans le baptême, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne son salut personnel en tant qu'il vit pour lui-même. Et dans la confirmation, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne la lutte spirituelle contre les ennemis de la foi. Donc la confirmation donne une force spéciale pour garder la foi catholique, surtout dans le monde actuel. Dieu sait si on en a besoin. On le voit par l'exemple des apôtres, donc qui avant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit étaient au Cénacle, persévérant dans la prière mais aussi dans la crainte. Et ensuite, une fois avoir reçu le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, ils en sortirent et ne craignirent pas de confesser publiquement leur foi devant les ennemis de la foi chrétienne. Donc il est évident que la confirmation imprime un caractère. Et il le redit en conclusion de l'article, la confirmation qui est un sacrement de la loi nouvelle imprime en même temps qu'une marque corporelle un caractère spirituel. On avance, article 6 de la question 72. Le caractère de la confirmation suppose-t-il le caractère baptismal? C'est évident que la réponse est positive, affirmative, puisque le baptême est nécessaire pour recevoir, c'est la porte d'entrée à tous les sacrements. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne peut recevoir aucun autre sacrement. Donc voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin, qui cite d'abord un père de l'Église, Rabban mort, en dernier lieu, par l'imposition des mains du souverain prêtre, le baptisé reçoit le paraclet afin d'être fortifié par le Saint-Esprit pour proclamer sa foi. Le caractère, voilà donc la réponse de saint Thomas, le caractère de la confirmation présuppose nécessairement le caractère du baptême au point que si un non-baptisé était confirmé, il ne recevait rien. Et il faudrait à nouveau le confirmer après son baptême. Donc une confirmation donnée avant le baptême serait invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans l'âme du non-baptisé une porte ouverte pour que la grâce du sacrement de confirmation puisse venir. La raison en est que la confirmation est au baptême comme la croissance à la génération. Et que nul ne peut atteindre l'âge adulte s'il n'est pas déjà né. Donc, la naissance correspond au baptême. Et ensuite, à l'âge adulte, on peut recevoir, en quelque sorte, les armes du soldat pour devenir véritablement soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Pareillement, si on n'a pas d'abord été baptisé, on ne peut recevoir donc le sacrement de confirmation. Bon. Pendant, il y a une note importante de saint Thomas d'Aquin, en réponse à la première objection, voilà ce que dit saint Thomas, la puissance divine n'est pas liée au sacrement. Un homme peut donc, sans le sacrement de confirmation, recevoir la force spirituelle pour confesser publiquement la foi du Christ, comme on peut recevoir la rémission des péchés sans le baptême. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas baptisé peut regretter ses péchés et obtenir de Dieu la grâce d'un baptême de désir et effacer tous ses péchés. Ça, c'est quelque chose d'important à recevoir. De la même façon, quelqu'un qui est baptisé mais qui n'est pas confirmé, exposé à de fortes tentations, pourrait recevoir de Dieu des grâces particulières de force pour lutter contre ces tentations. Grâces particulières de force qui, normalement, sont données par le sacrement de confirmation. Comme personne ne reçoit l'effet du baptême sans le désir du baptême, personne non plus ne reçoit l'effet de la confirmation sans le désir de celle-ci. Et cela, on peut l'avoir avant d'être baptisé. Donc, pour pouvoir être baptisé, il n'y a pas besoin du désir d'être baptisé pour un bébé, parce qu'il ne peut pas éliciter ce désir n'ayant pas encore une volonté d'adulte, Mais pour la confirmation donnée à un enfant en âge de raison, il faut qu'il ait le désir de recevoir ce sacrement, sacrement de confirmation. Article 7 de la question 72, la confirmation confère-t-elle la grâce? Donc voilà ce que dit Saint Thomas, il cite le pape Melchiade, au fond baptismaux, l'Esprit Saint donne la plénitude de l'innocence dans la confirmation, et il donne l'augmentation de la grâce. Donc c'est une confirmation, encore une fois, de ce qui est déjà donné au baptême. La grâce est évidemment donnée au baptême, la grâce du baptême, la grâce sanctifiante également, mais le sacrement de confirmation va donner une augmentation des grâces déjà reçues au baptême. Notamment au niveau des dons du Saint-Esprit et des fruits du Saint-Esprit. Article 8. À qui convient-il de recevoir ce sacrement? Alors, il va citer les Actes des Apôtres, au chapitre 2, qui disent que le Saint-Esprit remplit toute la maison où étaient réunis les apôtres et disciples de la Sainte Vierge Marie, qui symbolise l'Église. Et ensuite, il est ajouté que tous furent remplis du Saint-Esprit. Il faut donc l'administrer à tous ceux qui sont dans l'Église. Donc tous les catholiques peuvent et doivent recevoir le sacrement de confirmation. Donc il répète ce qu'il a déjà expliqué, donc, comme le fait habituellement saint Thomas, je l'ai déjà expliqué, il réexplique toujours les choses, à chaque fois il va un peu plus loin dans ses explications. Ce sacrement conduit l'homme spirituellement à l'âge parfait. Or, il est dans l'intention de la nature que tous ceux qui naissent corporellement arrivent à l'âge parfait, mais cela est parfois empêché par la corruptibilité du corps qui est prévenue par la mort. Il est à plus forte raison dans l'intention de Dieu de conduire tous les êtres à la perfection. Mais l'âme, sujet de cette naissance et de cet âge adulte au plan spirituel, est immortelle. Elle peut donc, dans la vieillesse, recevoir la naissance spirituelle comme dans la jeunesse et même dans l'enfance, parvenir à l'âge adulte, car l'âge du corps ne fait aucun tort à l'âme. Par conséquent, il faut administrer à tous ce sacrement. Ce serait une erreur que d'attendre trop longtemps pour recevoir ce sacrement de confirmation. Encore faut-il avoir un véritable évêque qui puisse vous donner véritablement le sacrement de confirmation, donc qui utilise la véritable forme et la véritable matière de ce sacrement. Saint Thomas va fort, parce qu'il va jusqu'à dire, et il cite en fait Hugues de Saint-Victor, « Il serait très périlleux que quelqu'un sorte de cette vie sans la confirmation. Non pas parce qu'il serait damné, sauf le cas de mépris, mais parce qu'il serait privé de cette perfection. Ainsi, aussi, les enfants qui meurent confirmés reçoivent-ils une gloire plus grande, comme ici-bas, ils obtiennent une grâce plus abondante. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrement de confirmation donne non seulement une grâce spéciale, mais une beauté spéciale à l'âme confirmée, et donne donc un degré de gloire supplémentaire au ciel pour l'âme confirmée. Donc s'il y avait deux âmes, une âme qui est simplement baptisée, une âme qui est baptisée et confirmée, l'âme baptisée et confirmée a un degré de gloire, toute comparaison, si vous voulez, est limitée bien sûr, mais un degré de gloire supérieur à l'âme qui n'est que baptisée. Donc l'âme qui est confirmée a un degré de gloire supérieur en principe. Bon, ceci aussi peut changer selon le degré de sainteté de la personne en question. Article 9, sur quelle partie du corps ce sacrement doit-il être administré? Donc, la tradition demande à ce que l'onction du crème soit faite sur le front. Pourquoi? Parce que c'est sur le front que se manifestent les différents sentiments qui peuvent être dans une âme. Par exemple, la peur peut se manifester sur le front, la gloire peut se manifester aussi sur le front. Et donc, le confirmé reçoit l'onction du crème sur le front pour manifester ouvertement qu'il est chrétien. Donc voilà ce que dit saint Thomas, je vous donne le texte. Dans ce sacrement, l'homme reçoit l'Esprit Saint pour être fort dans le combat spirituel et confesser courageusement la foi du Christ, même au milieu des adversaires de la foi. Aussi, convient-il qu'il soit marqué que le crème du signe de la croix sur le front, cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est marqué du signe de la croix comme le soldat est marqué du signe de son chef, signe qui doit être apparent et visible. Or, de toutes les parties du corps humain, c'est certainement le front qui est le plus visible. puisqu'il n'est presque jamais couvert. Ainsi, le confirmé reçoit l'onction du crème sur le front pour manifester ouvertement qu'il est des chrétiens, comme les apôtres, qui d'abord cachés au Cénacle, se montrèrent publiquement après avoir reçu le Saint-Esprit. Deuxièmement, parce qu'il y a deux choses qui empêchent l'homme de confesser librement le nom du Christ, la crainte et la honte. Or, l'une et l'autre se manifestent particulièrement sur le front à cause du voisinage de l'imagination et parce que les esprits animaux montent directement du cœur au front. Aussi, le confirmé est-il marqué du crème sur le front pour que ni la crainte ni la honte ne l'empêchent de confesser le nom du Christ. C'est pour cela que l'évêque va donc faire un triple signe de croix avec le Saint-Crème. Donc il va plonger son pouce dans le récipient contenant le Saint-Crème et va faire une triple bénédiction, confirmation sur le front de la personne qui reçoit le sacrement de confirmation. Article 10, faut-il quelqu'un pour tenir le confirmant ? Enfin là, il va parler des parrains et de et marraines de la confirmation. Alors voilà ce que dit Saint Thomas, il cite le pape Saint Innocent. Si l'un des deux époux a reçu au sortir des fonds ou tenu pour le crème le fils ou la fille d'une autre famille, donc il est nécessaire que quelqu'un aide le baptisé à sortir. Comme il est nécessaire que quelqu'un aide le baptisé à sortir de la fortune sacrée, c'est le parrain de baptême ou marraine de baptême, de même, quelqu'un doit-il tenir celui qui reçoit le sacrement de confirmation. Donc on peut reprendre éventuellement le même parrain, le même marraine qu'on avait déjà pour le baptême, mais c'est pas du tout obligatoire, on peut en avoir un autre. L'important, c'est que la personne, le parrain ou la marraine de confirmation, soit lui-même ou elle-même déjà confirmée, et qu'elle est bien sûr la foi catholique, et qu'elle garde la foi catholique et la pratique. Pourquoi ? Parce que ce sacrement, Saint Thomas répète encore une fois, est donné à l'homme pour le fortifier dans la lutte spirituelle, de même que le nouveau-né a besoin d'un éducateur qui lui apprenne à se comporter dans la vie. Ici de Saint Paul aux Hébreux, nous avons eu pour maître nos pères selon la chair, et nous les respections. De même, ceux qui sont enrôlés pour le combat ont besoin d'instructeurs qui les exercent au métier des armes. Aussi, dans les guerres d'ici-bas, établit-on des généraux et des centurions pour commander les autres. Et c'est pourquoi, aussi celui qui reçoit ce sacrement est tenu par un autre qui doit, pour ainsi dire, l'exercer au combat. De même qu'un soldat va apprendre à manier les armes offensives et défensives qu'il va devoir utiliser, de la même façon, le parrain a pour but d'aider le confirmé à garder la fidélité dans ce combat. Mais il est évident que les premières personnes en charge de aider cet enfant à garder la fidélité, ce sont les parents, tant pour le baptême que pour la confirmation. Mais les parrains ont l'obligation au moins de prier pour leur filleul, filleul de baptême, filleul de confirmation, et même si les parents physiques de l'enfant ne font pas leur travail, le parrain devrait en principe entrer dans cette histoire pour pouvoir assurer l'éducation catholique de l'enfant, puisqu'il en a pris la responsabilité pour le baptême et pour la confirmation. Bon, c'est pas toujours possible, parce que malheureusement, on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans ce domaine. Article 11, ce sacrement est-il donné seulement par l'évêque ? Donc, il cite le pape Saint Eusèbe, le sacrement de l'imposition des mains doit être tenu en grande vénération parce qu'il ne peut être conféré que par les grands prêtres. Au temps des apôtres, on ne lit pas et on ne sait pas qu'il ait été administré par d'autres que les apôtres eux-mêmes. Et jamais il ne peut et ne doit l'être que par ceux qui tiennent leur place. Si l'on osait faire autrement, que cet acte soit tenu pour nul et sans effet et on ne le comptera jamais parmi les sacrements de l'Église. Il est donc nécessaire que ce sacrement appelé ici sacrement de l'imposition des mains soit conféré par l'évêque. Donc Saint Thomas va développer cet article en disant, voilà, je vous cite le texte, « En toute œuvre, le dernier achèvement est réservé à l'art ou à la puissance la plus haute. Par exemple, les ouvriers inférieurs préparent les matériaux et c'est un artiste supérieur qui donne la forme. » Mais c'est au maître qui est réservé l'usage, qui est la fin de l'œuvre d'art. Ainsi, la lettre qui est écrite par un secrétaire est signée par son maître. Et ensuite, saint Thomas explique, les fidèles du Christ sont une œuvre divine. Il cite saint Paul 1 aux Corinthiens, chapitre 3, vous êtes l'édifice de Dieu. Ils sont donc comme une lettre écrite par l'Esprit Saint. Or, le sacrement de confirmation est l'ultime consommation du baptême. Donc, par le baptême, l'homme est construit comme une demeure spirituelle. Il est écrit comme une lettre spirituelle, mais le sacrement de confirmation consacre au Saint-Esprit cette maison déjà construite et celle du signe de la croix, cette lettre déjà écrite. C'est pourquoi la collation de ce sacrement est réservée aux évêques qui détiennent dans l'Église le pouvoir souverain. Comme dans la primitive Église, la plénitude de l'Esprit Saint est donnée par l'imposition des mains des apôtres, dont les évêques sont les successeurs. Donc, il cite à ce moment-là le pape Urbain Ier, tous les fidèles doivent, après le baptême, recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'évêque pour devenir parfaits chrétiens. Ceci dit, il est évident que le baptême donne, confère déjà le Saint-Esprit. Mais le sacrement de confirmation perfectionne ce don. Donc, il y a une note importante en réponse à la première objection de saint Thomas. Voilà ce que dit saint Thomas. Le pape a dans l'Église la plénitude du pouvoir qui lui permet de confier aux ordres inférieurs certaines des fonctions qui reviennent aux ordres supérieurs. C'est ainsi qu'il accorde à des prêtres de conférer les ordres mineurs, ce qui relève du pouvoir épiscopal. Les ordres mineurs, c'est portier, lecteur, acolyte, exorciste. C'est en vertu de ce pouvoir souverain que le bienheureux pape Grégoire a permis, dans certains cas, de simples prêtres d'administrer la confirmation. Mais, encore une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que seul le pape a ce pouvoir d'accorder à un simple prêtre le pouvoir de donner la confirmation. Article 12 de la question 72, le rite de la confirmation. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Il est certain que les rites que l'Église observe dans ce sacrement comme dans les autres sont ce qu'ils doivent être. Donc tous ces rites ont leur importance parce que justement cela correspond à la sagesse de l'Église. Donc voilà la fin de cette question 72, donc oui, qui est relativement simple. Cependant, il est important d'avoir les idées claires sur ce sujet. Vous pouvez constater que dans cette question unique sur le sacrement de confirmation, un traité qui est un tout petit, saint Thomas d'Aquin ne parle pas des fruits du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit, puisqu'il en parle dans d'autres endroits. Nous avons déjà vu ça au cours de notre commentaire sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je vous rappelle que la confirmation donne ses fruits du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on appelle la couronne de la charité. La charité, en quelque sorte, ouvre la grâce à d'autres choses qui se rajoutent à cette charité. C'est pour cela que le sacrement de confirmation est un sacrement des vivants, c'est-à-dire un sacrement qui ne peut être donné qu'à ceux qui ont l'état de grâce, donc qui ont la charité en eux. Donc, je vous rappelle très rapidement, parce que j'ai pas le temps de tout expliquer maintenant, j'ai déjà expliqué ces choses-là, mais je rappelle que le sacrement de confirmation donc va donner la plénitude surtout des sept dons du Saint-Esprit. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, vous pouvez aussi aller sur le catéchisme qui est sur le site d'Âme Marie, dont je m'occupe. Dans la section sacrement, vous allez au sacrement de confirmation et là, j'ai expliqué un peu en long, en large et en travers les différents dons du Saint-Esprit. Donc, je vous rappelle qu'il y a sept dons du Saint-Esprit qui vont fonctionner deux par deux. Vous pouvez les classer ainsi, c'est plus simple. D'abord, il y a le sacrement, le don d'intelligence qui travaille avec le don de sagesse, donc qui ont pour but d'aider les confirmés, les gens qui reçoivent ces dons du Saint-Esprit, à comprendre où sont les choses importantes. Le don de sagesse, en quelque sorte, nous donne de voir les choses avec les yeux du bon Dieu et plus avec les yeux humains. La deuxième chose, c'est le deuxième groupe, pardon, c'est le don de piété qui travaille avec le don de science. La piété permet de prier et la science permet de prier avec l'esprit de l'Église. Si on sépare la piété de la piété va devenir une pieuserie, va devenir en quelque sorte quelque chose de purement sentimental. Donc il faut que la piété soit alimentée par l'esprit d'Église qui va être donné par la science. C'est pour ça qu'il faut étudier, pour connaître son catéchisme. Si au contraire la personne n'a que la science sans la piété, eh bien sa science va devenir sèche. Donc il faut l'union entre les deux choses, la piété et la science en même temps. Le troisième groupe, c'est la force et le conseil. Encore une fois, il faut bien unir les deux choses. Malheur à celui qui utilise que la force ou le conseil, parce qu'il va utiliser sa force de façon déraisonnable dans bien des cas. Imaginez un étalon, c'est la force. Si l'étalon n'est pas contrôlé par un mors placé entre les dents dans la bouche de l'étalon, l'étalon sert pratiquement à rien, il va tout casser. Parce qu'on pourra pas, le cavalier ne pourra pas contrôler la force et la puissance de l'étalon. C'est la même chose pour nous. Donc il faut que ce don de force soit uni au don de conseil pour pouvoir utiliser cette force à bon escient. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, parle de celui qui veut construire une tour, qui commence par s'asseoir pour vérifier qu'il a suffisamment de matériaux à sa disposition pour construire la tour et la mener à complétion, à la terminer complètement. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ donne l'exemple d'une personne qui veut attaquer l'ennemi, et qui, avant d'attaquer l'ennemi, va commencer par vérifier qu'il a suffisamment d'armes et de soldats à cette disposition pour avoir une chance de remporter la victoire contre l'ennemi. Eh bien, c'est la même chose dans le don de force. Donc, le don de force doit être associé au don de conseil, et Dieu sait si c'est utile aujourd'hui. Avant de se battre, commençons par prendre conseil pour être sûr qu'on ne fait pas une bêtise. Faut pas agir de façon déraisonnée et déraisonnable. Le dernier don, c'est le plus petit, strictement parlant, c'est le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu est un don qui est le début de la sagesse. Donc c'est un peu un cercle fermé. Si on n'a pas le plus petit des dons des Saint-Esprit, à savoir le don de crainte de Dieu, on n'a pas le plus grand qui est le don de sagesse. Donc vous voyez, les deux sont unis. Alors, le don de crainte de Dieu, attention, n'a rien à voir avec la peur de Dieu, pas du tout. Le don de crainte de Dieu, c'est le don par lequel je crains d'offenser Dieu. C'est ce don de crainte de Dieu qui nous permet de comprendre la gravité du péché. Quelqu'un qui n'a pas le don de crainte de Dieu ne comprend pas la gravité du péché. Monseigneur Lefebvre nous disait que la chose la plus grave qui est arrivée avec l'esprit de Vatican II, c'est d'avoir supprimé le don de crainte de Dieu. Ayant supprimé le don de crainte de Dieu, le don de crainte de Dieu ayant disparu de la plupart des âmes modernes, évidemment, les âmes modernes n'ont plus la crainte d'offenser Dieu et donc n'ont plus la crainte du péché. Je voudrais rajouter une petite note sur une deuxième conséquence de la réception du sacrement de confirmation. En plus des dons du Saint-Esprit, également les fruits du Saint-Esprit, donc qui sont une grande aide pour lutter contre les œuvres de la chair. Donc là, on trouve ces fruits du Saint-Esprit dans le catéchisme, on les trouve aussi dans Saint Paul, au Galates, chapitre 5. Voilà ce que dit Saint Paul au Galates, je vous cite le texte. « La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. En effet, ils sont opposés l'un à l'autre pour que vous ne fassiez pas tout ce que vous voudriez. Les œuvres de la chair, dit-il, sont manifestes. » Il va citer les œuvres de la chair, la fornication, l'impureté, l'impudicité, la luxure, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rixes, les dissensions, les factions, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les débauches et les choses semblables dont je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà fait, que ceux qui les commettent ne seront point héritiers du royaume des dieux. Alors, ensuite, Saint Paul cite les 12 fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est au chapitre 5, verset 22 de l'Épître aux Galates. La charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et toutes ses convoitises. Donc, on voit bien, vous voyez que tout ça tourne autour de la charité. C'est pour cela que la charité est donnée comme premier fruit du Saint-Esprit. Et la charité peut se voir immédiatement par la joie et la paix. Donc, les trois premiers fruits du Saint-Esprit, charité, joie et paix. Ceux qui ont fait les exercices saint-Ignace se reconnaîtront ici. Une des règles de Saint-Ignace, où il explique dans les règles pour le discernement des esprits, il explique les signes par lesquels on peut reconnaître en nous l'influence du bon esprit. Et le premier qui donne, justement, c'est la joie. La joie, la paix, la lumière, et on peut dire l'attraction vers les choses belles. Alors qu'au contraire, lorsqu'on est attiré par le mauvais esprit, on le reconnaît tout de suite par la tristesse, la confusion, l'obscurité et l'attraction vers les choses belles. Voilà. Nous allons donc, la prochaine fois, si Dieu veut, commencer le traité de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sur la Sainte Eucharistie. Donc, ce traité de la Sainte Eucharistie est beaucoup plus important. Donc, il couvre les questions 73 à 83. Donc, saint Thomas d'Aquin va parler de la nature du sacrement, de la Sainte Eucharistie, puis de la matière, considérée dans son espèce, puis le changement du pain et du vin au corps et au sang du Christ, la transubstantiation. Comment le corps du Christ est dans la Sainte Eucharistie, les accidents qui restent. Ensuite, il va parler de la forme du sacrement, des effets, de l'usage par la Sainte Communion, du ministre et du rite de la Sainte Communion. Donc, nous verrons, si Dieu veut, tout cela pour le prochain cours. Donc, nous commencerons ce traité sur la Sainte Eucharistie. Je vais arrêter là pour séparer un peu dans les différentes conférences et différents traités pour que vous ne mélangiez pas tout. Nous allons terminer par une prière. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.